Je suis vraiment je suis vraiment content d'être là avec vous ce matin. Alors je disais au mois d'août on était pas là. On se promenait d'église en église pour présenter notre projet missionnaire vers le Niger. Le mois de septembre on était bénis parce qu'on a pu rester ici pas mal tout le long. Mais là déjà le mois d'octobre. C'est un privilège d'être là aujourd'hui. En fait, Michel m'a contacté juste à temps parce que le même jour qu'il m'appelait, je crois que tous les autres dimanches étaient. On va être absent encore pour le reste du mois d'octobre. Et alors, c'est pas parce qu'on vous fuit, mais c'est parce qu'on reçoit des invitations puis on présente notre ministère. Alors, je voulais en profiter pour vous présenter en même temps qu'est-ce qu'on va retourner faire au Niger. Alors parce que aussi j'ai réalisé que souvent, peut-être plusieurs, je suis désolé si ça va être de la répétition, ne vous levez pas pour fuir là, ne pour partir. Mais j'ai réalisé que souvent, comme j'en parle tout le temps, j'en parle partout ailleurs, des fois j'en parle pas beaucoup ici. Alors c'est comme une partie de, une façon de mettre une mise à jour avec vous. Mais avant de vous parler de, parfait. Avant d'aller tout de suite au Niger, j'aimerais qu'on tourne ensemble dans 1 Samuel au chapitre 17. Je suis curieux, c'est pas dans mon message, mais est-ce qu'il y en a que c'est leur premier mois d'octobre au Canada? Est-ce que c'est... Oui, bienvenue. En tout cas, si vous avez froid, si vous vous sentez frileux, vous êtes en période d'adaptation pour devenir Québécois. Parce que, en général, les Québécois sont frileux. Si vous rencontrez des gens qui aiment jouer dehors et qui sont très à l'aise dans le froid, c'est probablement parce qu'ils ont du sang autochtone. Mais la plupart des Québécois, en général, ils ont froid. La même façon, si vous rencontrez un Africain, l'été, il a chaud. Hein, cet été, j'étais à la banque alimentaire en bas, puis il y avait plusieurs... Africains, puis ils disent « Ah, il fait chaud! » C'est là que j'ai compris. Je dis « Ah, les Africains, ils ont chaud en été, et les Québécois, ils ont froid en hiver. » Ouais. Alors, 1 Samuel 17. On va lire au verset 52, s'il vous plaît. Je vais vous lire dans ma version. Les hommes d'Israël et de Juda s'ébranlèrent en poussant le cri de guerre et poursuivirent les Philistins jusqu'à l'entrée de la vallée, jusqu'aux portes d'Écron. Des cadavres de Philistins gisaient sur la route de Shaarim, et jusqu'à Gath et à Écron. Et là, j'aimerais qu'on ait cette image-là du peuple d'Israël, de l'armée d'Israël qui s'ébranle dans un cri de guerre, hein, qui est en position de guerre et là qui crie ouah et qui attaque l'ennemi puis qui vainc l'ennemi puis l'ennemi s'enfuit devant eux puis ils vont les poursuivre jusqu'aux portes de leur armée. Est-ce que c'est pas une image merveilleuse de l'armée de Dieu? De voir l'armée de Dieu qui est vibrante, qui est pleine de courage et qui attaque son ennemi et qui gagne, qui a la victoire. Est-ce que c'est pas une image fantastique? N'est-ce pas? C'est quand même merveilleux de dire, hey, wow, tu sais, c'est l'armée de Dieu, ils sont pleins de courage, ils crient, ouais, et ils gagnent en plus la victoire. Et c'est une image qui est précieuse, qui est riche. Mais si je vous demandais à nous, en tant qu'armée de Dieu, non violente quand même, est-ce qu'on se sent toujours comme ça? Vibrante et pleine de courage et on affronte les obstacles de la vie. Pas toujours, n'est-ce pas? Mais si, est-ce que quelqu'un a un titre au début du chapitre 17? Dans David, vainqueur de Goliath. Alors, est-ce que plusieurs connaissent l'histoire de David et Goliath? Je vous la résume brièvement. Et vous m'excuserez. Sinon, soit pendant que je parle, si vous vous ennuyez, vous pouvez lire l'histoire de David et Goliath. Ou à la maison, c'est une bonne chose de faire, de lire l'histoire de David et Goliath ici au chapitre 17. Et c'est pas David et Goliath, mais je vais juste changer, ça va être moins, c'est-tu bon chose? Ah voilà, C'est juste moins agressif pour que d'un écran blanc. Et on y est beau quand même, mais... Alors, brièvement, on sait que l'armée d'Israël s'était rassemblée pour affronter l'armée des Philistins dans une vallée. Et l'armée d'Israël était dirigée par le roi Saül. Et moi, je suis fasciné de voir que l'armée d'Israël, elle est venue à la guerre. Elle était prête à combattre les Philistins. Et certainement, il y avait un nouveau roi, c'était Saül. Ils étaient motivés, encouragés. Et ils sont là, ils viennent. Ils disent, on va gagner. L'armée des Philistins devait avoir des idées semblables. Encore un peu plus de motivation, on va le découvrir. Parce que avant que le combat éclate, il y a un géant qui sort de l'armée des Philistins qui s'appelle Goliath et qui mesure, je sais pas, le 9 pieds qu'on dit en général. Je sais pas si j'atteins 8 pieds, moi, avec ma main. Mais, tu sais, c'est encore plus haut. Et certainement aussi costaud, là. Qui vient affronter et qui se met à insulter puis l'armée d'Israël, puis dit, je vous mets au défi, envoyez-moi un homme, s'il me bat, vous avez gagné, si moi je le bats, on a gagné. Les règles sont simples, puis ça ne semble pas être trop difficile. Mais pendant 40 jours, il va les menacer comme ça, et l'armée d'Israël va être là. Ce que je trouve... souvent, j'ai eu cette idée, ah, l'armée d'Israël était peureuse. Hein? Personne n'avait le courage, tout le monde était là derrière, isolé, à rien faire, puis à regarder Goliath. Mais quand j'y repensais, quand j'y reméditais, je me disais, c'est quand même merveilleux de voir que l'armée d'Israël est restée là 40 jours. Je crois, il y a dû en avoir quelques-uns qui ont parti. Mais c'est quand même merveilleux de penser qu'ils sont restés là. Mais ils n'ont jamais osé aller affronter Goliath. Et ils sont restés dans leur peur, dans leur incertitude derrière. Jusqu'au jour où est arrivé un petit bonhomme, un adolescent, qui s'appelle David. Comme je dis, je vais vite parce que en général, c'est une histoire qui est connue. Mais David arrive et lui... rempli de foi, rempli de courage, mais surtout, il est ébranlé par les insultes que profère Goliath. Avec ce qu'il a, simplement une fronde et un caillou, il va terrasser Goliath d'une pierre dans le front et Goliath va tomber d'un coup. Et c'est à ce moment-là, en voyant leur ennemi tomber, que l'armée d'Israël va prendre courage puis va dire « Ouais! On l'a! » Puis ils vont terrasser, ils vont vaincre et disperser toute l'armée des Philistins. Je passe vite sur l'histoire de David parce que je veux qu'on prenne le temps de bien voir l'armée d'Israël, hein, de se mettre dans cette image-là que l'armée d'Israël, elle est là pour combattre, mais qu'elle est prise avec ses sentiments de dire « Ah, c'est trop gros, là. Ce qui est là devant nous, c'est trop... ça nous dépasse, ça nous déborde. » En méditant sur ce texte encore, puis en réalisant qu'ils sont restés 40 jours, c'est quand même une torture, hein, j'imagine. Tu sais, vous êtes là, puis vous dites, j'imagine que plus que les jours avancent, il y a de moins en moins de volontaires. Tu sais, il y en a peut-être au début, je ne sais pas si vous avez déjà fait relevé un défi. Et je me souviens quand que c'était à notre autre église avant, on avait fait une sortie avec les ados. Est-ce qu'on avait dû? On a dû le dire aux parents, mais c'était un pont d'une dizaine de mètres, puis on sautait dans la rivière. Alors, c'est pour ça que je ne suis pas leader jeunesse ici, peut-être, là, parce que... oui, c'est ça, ma femme était là. Fait que, oui, les parents étaient au courant. Alors, c'est correct. Mais il n'y avait pas protégeon pour servir. Protégeons les enfants à cette époque-là. Alors, mais vous savez, au début, on est là. Puis là, tout le monde, ouais, moi, je vais sauter en bas du pont. Ha, 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 j'ai pas de problème. Puis plus que le temps avance, puis plus que les volontaires, les zélés sont, ouais, je sais plus, tu sais, ouais, ça a l'air bon. Puis là, il y en a un qui saute, ah oui, moi aussi. Puis là, on saute, on traversait la balustrade. ou la rampe, là. Puis là, je me souviens d'une fille qui est restée au moins 10 minutes, puis je crois qu'il y a les empreintes digitales dans l'acier, tu sais. Puis on dit, vas-y, ou enlève-toi. Non, oui, non, oui. Mais j'imagine l'armée d'Israël semblable qui se dit, ah non, hey, demain, je m'en vais l'affronter, Goliath. Ouais, demain, je suis sûr, c'est moi qui vais y aller le battre demain. Puis là, demain arrive, puis toi, tu y vas-tu, toi, finalement? Non, c'est toi. Ah oui, tu avais dit ça? Non, moi, ah, j'ai oublié ça. Ah, tu sais. C'est d'être mon frère. Non, c'est pas ton frère. Je suis certain qu'il y avait cette dynamique-là. Puis on peut imaginer ce sentiment-là qui s'effrite, ce courage qui s'effrite, mais ils sont pas capables de quitter. La beauté que je vois là-dedans, c'est que l'armée d'Israël avait toujours cette foi quand même de dire on peut pas quitter. Dieu est vivant. Dieu va faire quelque chose. Le défaut de chacun des membres de l'armée, incluant les fils de Saül et Saül, c'était de dire, Dieu est vivant, Dieu va nous donner la victoire, mais moi, je suis pas capable. Mais moi, je ne pourrai pas vaincre Goliath. Et c'était dans l'armée, chacun se disait, mais moi, je ne serai pas capable de vaincre Goliath. Jusqu'à temps qu'arrive un individu, David, qui lui, se présente et réussit à faire tomber Goliath. Et là, toute l'armée d'Israël retrouve cette foi et attaque l'armée des Philistins. Vous remarquez que les Philistins ont triché parce que si Goliath mourait, il devait s'avouer vaincu, mais ils se sont enfuis quand même. Ils n'ont pas respecté le règlement. Quand nous étions au Niger, c'est notre famille. Vous nous connaissez un petit peu. Alors ça, c'est nous un peu plus récemment. Voilà. Quand nous sommes arrivés au Niger, on a rencontré, ça peut être la même chose dans d'autres pays pauvres, mais il y a la même réalité semblable, on a rencontré des Goliaths. On a vu des obstacles, des épreuves difficiles, dont un, par exemple, était la pauvreté. Mais comme on parle du Niger, c'est l'un des pays les plus pauvres de la planète. Donc ça, c'est une grande pauvreté. On a aussi un autre obstacle, c'est une autre mentalité, une autre culture. Par exemple, ici on voit, c'est une tente de Touareg. C'est des Touareg nomades, puis c'est une tente toute en cuir. Un instant. Et à première vue, si on regarde ça, on s'est dit, c'est-tu terrible quand même, tu sais? Ils sont vraiment comme dans la misère, tu sais. Il n'y a pas de mur, il n'y a pas de cuisine, hein. Il n'y a pas de salon. Mais ce qui était fascinant, par exemple, c'est de découvrir qu'en rencontrant d'autres Touaregs, ça, c'est le luxe. C'est ça qu'ils veulent. Si un Touareg a une maison comme ça, une tente comme ça, s'il y a cet environnement-là, il a réussi. Alors, je ne sais pas si vous imaginez, là, comme vous, nous, on voit ça, puis on pense à la pauvreté, puis on se dit, ils sont misérables, ils sont pauvres. Mais dans une autre pensée, ça, c'est le succès. Alors, alors, je ne sais pas si vous réalisez, c'est comme un autre monde, c'est comme un Goliath, tu dis, c'est plus ce que je pensais. C'est pas le monde que j'imaginais. Comme l'armée d'Israël est arrivée, puis elle s'est dit, on va combattre des êtres humains normaux comme nous. Puis arrive un géant. Puis elle dit, c'est pas ce qu'on pensait. La raison, juste parce que plusieurs se demandent, c'est que si quelqu'un peut avoir une tente en cuir, ça veut dire qu'il y a des animaux. Et s'il y a des animaux, ça veut dire qu'il y a une richesse. Et s'il y a une richesse, mais ça veut dire qu'il a réussi dans la vie. Mais c'est juste pas le même type de réussite que nous. Mais on a fait face quand même à la véritable pauvreté. Là, les huttes en paille, ça c'est beaucoup moins mobile et c'est beaucoup plus proche d'une pauvreté qu'on imagine. Donc on a fait face on a rencontré des Goliaths, des épreuves. Pour nous-mêmes d'abord, en tant que missionnaires. Mais aussi, on a rencontré des chrétiens qui aiment le Seigneur, des chrétiens qui sont pleins de foi et qui sont pleins de courage. Parce que c'est dans un pays où il y a 96% de musulmans, et donc les chrétiens n'en ont pas énormément. Et les chrétiens eux-mêmes font face à les mêmes défis que les musulmans, que n'importe qui. Quand je parle de pauvreté, ils font face. On parle de santé, de maladie, ils font face à ces obstacles-là. Mais quand on parle même de témoigner leur foi à leurs voisins, là, on parle d'un Goliath que je dirais qu'on n'imagine pas. Parce que ce qui est positif, c'est que les musulmans ne sont pas violents au Niger. Mais ils sont pas nécessairement contents face à un chrétien ou un voisin chrétien. Et donc, quand on a rencontré les chrétiens, on a vu des gens, je dirais une armée de Dieu, pleine de foi, pleine de courage, mais qui, comme l'armée d'Israël au temps de Saül, est là, puis elle regarde Goliath, puis elle se dit, il va tomber. Mais comment il va tomber? Comment le faire tomber? Et qui se dit, est-ce qu'on va y arriver? La bonne nouvelle, c'est que c'est pas Sophie et moi qui faisons tomber les Goliaths au Niger. J'ai lu dans les Pères de l'Église. En fait, j'ai trouvé ça vraiment fascinant un jour en lisant les Pères de l'Église. Donc ça, c'est les écrivains, les premiers chrétiens qui ont écrit dans les 300, 400, 500 premières années de l'Église. Et d'une façon fascinante, les Pères de l'Église relisaient l'Ancien Testament avec un regard différent que celui des premiers des Juifs. Parce que là, ils venaient de découvrir Jésus. Et en lisant l'Ancien Testament, ils sont mis à relire l'Ancien Testament avec un objectif. Ils voulaient retrouver Jésus dans l'Ancien Testament. Ils disent, la Bible nous a déjà annoncé d'avance, hein, Jésus était annoncé d'avance. Alors, ils sont mis à relire les Écritures à la recherche de Jésus dans les Écritures. Et il y a Saint Hippolyte qui nous illustre ça avec l'histoire de David et Goliath. Et il va parler, il va dire, notre David a terrassé la mort de la même façon. Et notre David, c'est qui? C'est Jésus. Et la chose fascinante, pour moi, c'était une lumière, ça. C'était une étincelle. Parce que moi, je regardais toujours David en disant, il faut que moi, je sois comme David. Il faut que moi, je sois plus fort que mes obstacles. Moi, il faut que je sois plus fort que mes ennemis ou mes peurs. Il faut que je sois plus grand que tout ce qui est un obstacle à la foi. Mais Saint Hippolyte, il nous présente et dit, David, c'est un type de Jésus. Il nous représente Jésus. Et donc, on pourrait dire, comme Jésus a vaincu la mort à la croix, comme Jésus a vaincu nos péchés à la croix, David qui vainc Goliath nous représente la victoire de Jésus. Pour moi, ça a changé ma perspective sur l'histoire de David et Goliath. Ça m'a changé ma perspective sur ma vie, on pourrait dire, sur la foi chrétienne. C'est-à-dire que maintenant, je n'ai pas à me craquer et à me dire, il faut que je sois courageux comme David. Parce que David, c'est Jésus. Il représente Jésus dans la vie de tous les jours, si on pourrait dire. Et donc, ce que ça m'a donné comme position, si je pourrais dire, si je m'imagine dans la scène là, de David et Goliath, si on s'imagine, imaginez que vous êtes là dedans. Je vous demande, vous seriez qui dans l'histoire? J'espère que personne ne dit Goliath parce que ça va me faire peur. Mais on enseigne toujours à l'école du dimanche ou à nos enfants ou même dans d'autres sources, soyons comme David. Et c'est un bon modèle. Je ne dis pas soyons pas comme David, mais dans la vie de tous les jours, moi je réalisais, moi je suis plutôt à côté de Jonathan. Puis un petit peu plus loin de Jonathan même, parce que c'est le plus courageux peut-être de la gang. Tu sais, je suis plus celui qui va l'attaquer demain, Goliath. Moi, demain, je vais y aller voir Goliath, puis je vais le vaincre. Mais finalement, si je regarde à Jésus face à mon obstacle, eh bien, je peux être l'armée, faire partie de l'armée d'Israël qui crie « Ouais, on va les avoir !» puis qui court et qui réussit à disperser l'ennemi. Et c'est cette perspective-là que j'ai réalisée, que j'ai trouvée qui était merveilleuse de dire « Finalement, j'ai des obstacles dans ma vie de tous les jours. Hein, vous avez des, on a des patrons, on a des collègues, on a des belles-mères ou des mères. Ou, c'est les clichés, là. Je sais que nos belles-mères sont tous exceptionnelles. Mais là, nous avons des petits frères, des petites sœurs. Ça, c'est pour les ados, là. Ils ont on a nos Goliaths. Mais la merveille, c'est que Jésus là, les a non pas vaincu notre belle-mère, mais il a vaincu l'obstacle qui est là dans notre vie face à ce qui nous assaille. Oui, Georges. Donc, la bonne question, c'est pourquoi Dieu n'a pas réglé ça avec Satan avant? Mm-hmm. Bien, en fait, toujours... c'est sûr que c'est... Oui, c'est une grande question, mais... oui, c'est ça. C'est la... Ce que quand même je dirais, c'est que Dieu nous invite non, pas nous invite. Dieu nous a donné une liberté humaine. Satan a fait des ravages, mais on garde une liberté humaine. Une des façons que j'ai de répondre à ça, c'est que si Dieu avait pu régler ça d'une façon spéciale en donnant de l'intelligence aux hommes pour être capable, par exemple, d'avoir de la diplomatie. Si Dieu avait donné de l'intelligence aux hommes pour être capable d'être des artisans de paix, puis si on avait pu avoir cette conscience, si Dieu avait pu nous donner cette conscience-là, du mal et du bien, entre autres, pour prendre des décisions justes, ben finalement, Dieu l'a fait. Et tous les enjeux de guerre, ça reste de guerre ou de mal dans la société, ça reste un problème de volonté humaine. Ça reste un problème de décision. C'est certain que le diable ne nous aide pas là-dedans. Et notre nature pécheresse nous entraîne vers le bas. Mais en effet, l'enjeu de Dieu n'était pas l'absence de guerre, si on pourrait dire. Mais c'était plutôt qu'il veut nous inviter dans une relation avec lui. Il veut qu'on soit en relation personnelle avec lui. Et ces conflits-là qui nous entourent nous poussent à se tourner vers lui de plus en plus. C'est sûr que c'est très bref, là, et on peut en discuter beaucoup plus longtemps, là, mais c'est juste dire que c'est pas que Dieu n'a pas agi, mais Dieu agit dans notre domaine de l'humanité, dans notre humanité, si je peux dire. Et de la même façon, Dieu ça va plutôt se présenter comme un rédempteur, quelqu'un qui vient transformer des situations. C'est certain que les enjeux nationaux ou internationaux, on les connaît pas, dans le sens que je connais pas quelle est la place que ces gens-là peuvent donner à une relation personnelle avec Dieu. Mais au moins de façon individuelle, ça nous invite à avoir une relation personnelle, à avoir besoin de lui, à avoir soif de lui. Puis c'est là qu'il revient notre mandat à nous d'aimer notre prochain. Notre mandat de transformer notre société, non pas d'un niveau politique, mais un niveau de notre voisin, notre prochain qui est là autour de nous. Je peux faire une différence dans la vie de mon prochain à côté de moi. Oui, Jean-Pierre. Oui, mais c'est là le mystère que justement Jésus, notre Jésus, et oui. Oui, c'est sûr qu'on on souffre avec une espérance, et c'est là qui est précieux. Et on a le modèle de Jésus qui a traversé aussi la mort et la souffrance. Attends un peu, Yonan. Oui, Sonny, tu Ah oui, intéressant. Donc en fait, c'est Yohanan dit que si on a tout ce qu'on veut, en fait, on n'en veut plus. Et donc, ça provoque une autre forme de souffrance. Donc, le vide fait qu'on a une espérance, alors que si on n'était pas vide, on se viderait. Oui, Claire? Savez ce qui est fascinant? Pendant que vous parlez, je me sens un peu regardé comme ça, de la part de Dieu. Et je vous explique, parce que c'est hier soir, je méditais cette question-là. Puis j'ai dit, Seigneur, je discarte cette question-là. Je voulais penser, introduire ça un petit peu dans mon message. Je dis, ah Seigneur, c'était pas d'être directement un angle, mais là, c'est comme si je sens que le Seigneur, le papa, il dit, je t'avais parlé, hein? Alors, merci Georges. Mais je mûrirai ma pensée. J'ai dit, Seigneur, j'ai pas le temps de tout réfléchir ça. Mais là, voilà. Mais ce qui est fascinant, c'est que la prochaine partie de mon message était pour... mais vous l'avez tout mis en pratique, quasiment. C'est-à-dire que quand j'ai rencontré les chrétiens du Niger, comme j'ai dit, je suis pas un David qui fait tomber les Goliaths. La bonne nouvelle, c'est pas que l'un d'entre nous, on va faire tomber toute la misère du monde. D'ailleurs, Jésus l'a bien exprimé à la veille de la Passion, qu'il dit, les pauvres, ils seront toujours parmi vous. Donc, la bonne nouvelle n'est pas que la misère, le mal, la guerre vont arrêter. Mais la bonne nouvelle, c'est que... Et c'est là que moi, j'ai la question qui m'était venue hier, c'est où serait la bonne nouvelle s'il n'y avait pas le mal dans le monde? En fait, il y aurait quand même une bonne nouvelle, parce qu'on aurait quand même besoin d'une relation personnelle avec Dieu. On aurait quand même besoin de Jésus. Parce que si on regarde Adam et Ève, on peut constater que c'était un environnement idyllique, mais ils étaient quand même capables de faire des erreurs. Donc, on aurait quand même besoin d'une relation personnelle avec Dieu, avec Jésus. En rencontrant les chrétiens au Niger, j'aurais dit, moi, je peux pas faire tomber la misère, je peux pas faire tomber la pauvreté, mais on peut se mettre ensemble, puis on peut réfléchir. Et l'idée, c'est que c'est pas moi qui ai les solutions, parce que mes solutions ne sont pas nécessairement applicables. Hein. Moi, ma solution pour la tente en cuir, c'était de bâtir des murs en ciment. Mais pour eux, c'est leur rêve. Hein. Ma solution, elle ne coordonnait pas avec la situation. Et qu'est-ce que je fais? Ce que nous faisions, c'est qu'on les rassemble, puis on les fait parler. Fait que vous avez mis ça en pratique. C'est-à-dire que, par exemple, à moi seul, je n'ai pas la réponse, mais à nous tous, hein, on peut trouver beaucoup plus de solutions, que ce soit à la misère, que ce soit à la philosophie, que ce soit à d'autres choses. Et en les rassemblant, les chrétiens ont pu trouver des sources de force, si je pourrais dire, des sources de courage pour regarder Jésus qui avait fait tomber leur Goliath. Je vous donne un exemple, je vous présente Denis. On ne le voit pas, Denis, parce qu'il ne devait pas sourire, mais il est dans l'obscurité. Mais on va le voir tout à l'heure, je vous le montre une autre photo. Alors, Denis, il a perdu son emploi. Et Denis, c'est un chrétien, mais il a perdu son emploi. Puis des choses un peu, c'est pas vrai, en partie parce qu'il est chrétien, mais c'était surtout à cause qu'il était venu avec moi, il était venu travailler pour moi, puis il s'était absenté de son travail pendant 3 jours. Donc ça, c'est un petit peu, plutôt que de lui donner la victoire, je lui ai fait perdre son emploi. Et là, son pasteur lui a dit, parce que Denis était en colère, il dit, je m'en retourne dans une autre ville. Et le pasteur lui a dit, prends courage, peut-être tu pourrais faire quelque chose toi-même. Alors, moi, je l'ai rencontré aussi, puis on nous l'avons encouragé. Et finalement, il lance son petit restaurant. Ça, c'est son restaurant. Ça s'appelle le restaurant Aquaba. Hein, est-ce que c'est Baolé, Aquaba, ou c'est... Je sais, c'est une expression en Côte d'Ivoire. Bonne arrivée, oui, c'est ça. Alors, Denis n'est pas ivoirien, mais il a pris ce nom-là. Alors... ça, c'est en 2008, si je ne me trompe pas, qu'il part finalement à son petit restaurant. Et bon, de peine et de misère, il continue. Et l'année dernière, quand je suis allé l'année dernière, il m'appelle. On se parle régulièrement. Mais c'est un vlimeux. Il m'a caché qu'il avait fait de l'expansion. Alors, d'un homme qui avait aucune ressource, aucune capacité, il se disait, en perdant son emploi, je suis un échec. Non seulement il a trouvé le courage avec ses frères, puis avec nous, de partir son petit restaurant qui était la petite tôle là-bas, là. Puis un an après, il a été capable d'agrandir et de prendre, de l'expansion. Donc il a vu son Goliath tomber, puis il a couru en arrière de son David pour terrasser même la pauvreté. C'était à un tel point que l'année dernière, il s'était fait offrir, on pourrait dire, une franchise dans un endroit qui aurait pu être très payant. Mais là, ça lui demandait une part de risque beaucoup trop grande. À ce moment-là, il n'était pas en mesure de le faire. Mais il a quand même été capable de relever le défi de faire face à la pauvreté. De la même façon, j'ai rencontré c'est encore dans la même communauté de chrétiens. Je les ai rassemblés, puis j'ai dit, faisons face à nos défis, à leurs défis. Quelles sont vos difficultés? Et là, on a trouvé des problèmes de santé. Alors, toujours l'inquiétude, est-ce qu'on va être en santé? Est-ce que nos enfants vont réussir à l'école? Mais le plus grand, naturellement, c'est, est-ce qu'on va avoir assez d'argent? Alors, à ce moment-là, je leur ai dit, OK, mais ça, c'est tous eux qui parlent. Moi, je leur dis pas c'est quoi leur problème. Moi, on les rassemble pour les faire se concerter, leur permettre de parler. Et comme tout à l'heure, je me tais et vous avez parlé. Alors, c'est la même chose que je fais. Mon ministère, c'est de me taire. Ça fait drôle, hein? Mais non, mais c'est de leur permettre de regarder à Jésus puis de réaliser ensemble, ah, il y a quelque chose. Alors, ils se sont mis à dire, il faut choisir un obstacle. On peut pas tout attaquer de front. Réussissons un obstacle, puis après ça, on verra. Alors, ils en choisissent un. C'est celui que moi, je voulais pas. La pauvreté. Parce que moi, je me dis, je veux pas toucher à l'argent. Puis je l'avais bien prévenu. J'ai pas d'argent dans mes poches. Pas beaucoup, en tout cas. Pour un projet de quelconque envergure. Ils ont dit, c'est pas grave. Nous, en jasant avec. Parce que au début, individuellement, chacun dit, non, il y a rien de possible. Je suis pauvre, je vais rester pauvre, on a une petite business. Mais là, en étant tous ensemble, ils ont dit, on va faire une tontine. Il y en a qui connaissent la tontine? Est-ce qu'on dit ça dans d'autres pays? Hein? Ah, pas cantine, tontine. Alors, la tontine, c'est de l'épargne forcée, c'est-à-dire qu'on se met en groupe et on apporte chacun 10$, puis à la fin du mois, c'est Pascal qui l'a, tu chanceux? Mais t'as apporté ton 10$. Mais on continue comme ça le mois d'après, on rapporte encore chacun notre 10$ et là c'est quelqu'un d'autre. Puis le groupe va se partager l'épargne de cette manière-là. Alors j'ai trouvé ça génial, j'avais jamais pensé à ça. Avez-vous déjà pensé à ça? Peut-être que... En tout cas, parce qu'il n'aurait jamais été capable de mettre l'argent à la banque comme tel. Mais c'est leur idée. Et ils s'y sont engagés, ils l'ont fait. Et aujourd'hui, ils se sont rencontrés vendredi dernier, moi j'ai dit fin du mois, mais c'était début du mois, là. Ils épargnent au-delà de 1000$ par mois à eux tous. Ce qui fait que une fois par X mois, il faudrait que je connaisse le nombre de groupes, là, mais c'est un petit peu plus qu'un an, ils se retrouvent avec une épargne de 1000$. Ce qui ne serait jamais capable, c'est des gens qui gagnent entre 100 et 300$ par mois, ils ne seraient jamais capables d'épargner tout ça. Mais ensemble, ils ont réussi à faire ça. Et c'est leur propre initiative. Leur groupe a grandi. Et c'est en train de leur donner aussi un rayonnement autour. Parce que leurs voisins le voient. Leurs voisins voient qu'il y a de la solidarité entre les chrétiens. Et là, les musulmans se disent, si je deviens chrétien, je fais pas juste m'isoler de ma solidarité familiale, mais il y a une autre solidarité qui est là parmi les chrétiens. Je vais reculer. Et au travers de ça, l'autre illustration qu'on donne, c'est qu'au travers de cette action, qu'on pourrait dire sociale, c'est qu'on inclut des versets de la parole de Dieu dedans. Fait que quand on partage, même chose avec les chrétiens, mais j'avais dit aux chrétiens, quand vous allez partager de votre tontine avec les autres, insérez des versets qui disent « Là où est notre trésor, là est notre cœur », par exemple, ou de dire « On fait une tontine, mais c'est pas en accumulant l'argent ici, là où est-ce que la rouille et la teigne qui va se faire notre richesse. » C'est dans les lieux célestes. Et je voulais juste vous présenter rapidement Halima, qui est une femme que Sophie a formée aussi comme facilitatrice. On pourrait dire comme c'est une animatrice, mais elle enseigne pas. Elle fait parler aussi les femmes. Dans ce cas-là, c'est surtout les femmes sur l'hygiène, parce que souvent, je pourrais vous parler de l'importance de vous brosser les dents, par exemple. Mais à la vérité, là, on le sait tous qu'il faut se brosser les dents. Même si je suis certain qu'ici, il y a au moins 85% des gens qui se brossent les dents, ou peut-être plus, mais donc c'est pas l'idée juste de dire « Ah, il faut vous laver les mains! » Mais finalement, si on fait parler les gens, on va prendre conscience et dire « Ah oui, il y a quelque chose de plus grand. » Et là-dedans, elle inclut la parole de Dieu toujours. Ce qui fait que quand elle parle avec des musulmans, elle n'est pas en train de les attaquer, de les confronter, elle leur partage la vie de tous les jours, qui est l'importance de se laver, d'être propre. Puis dedans, c'est tout à fait logique, il y a la parole de Dieu, parce que Dieu est partout, dans toutes les dimensions de notre vie. Et c'est ce qui fait que Halima, par exemple, qui est une mère monoparentale, qui n'a jamais eu d'expérience de travail, aujourd'hui, elle travaille encore pour une ONG, elle travaille même pour ceux qui connaissent la Bourse du Samaritain, dans des camps de réfugiés, pour contrer le choléra. Je sais pas, c'est le choléra, qui est dans les camps de réfugiés, et puis qui est avec ce même approche-là, simplement par... Et donc, Halima elle a vu Jésus terrasser sa misère, son domaine de besoin, puis elle court derrière, en train de vaincre, elle aussi, ses Goliaths. Oui. Alors, c'est une façon rapide de vous présenter notre ministère au Niger. Une façon aussi de dire que on n'est pas en train d'enrayer les misères du monde, mais on est en train d'amener Jésus qui vit avec nous dans nos misères du monde. Et de la même façon, au Niger, la bonne nouvelle, c'est que Jésus est présent avec eux, avec nous, que ce soit ici, ou ailleurs. Amen. J'aimerais qu'on incline nos têtes. Je peux inviter l'équipe de louange à venir se préparer. Seigneur Jésus, c'est avec émerveillement qu'on s'approche de toi en se disant que tu as vaincu, Seigneur, à la croix, nos pauvretés, nos obstacles, nos blessures du passé. Seigneur, comme Georges le pointait, il y a des menaces de guerre dans le monde. Puis ça nous dépasse. On ne pourrait même pas nous dire « Ah, je vais aller au front et je vais arrêter la guerre. » Mais toi, Jésus, tu es notre vainqueur. Tu vas être avec nous dans la situation qu'on vit. Et je prie, Seigneur Dieu, pour nos frères, nos sœurs chrétiens au Niger, mais aussi dans d'autres pays pauvres, que ce soit en Afrique, en Asie, que ce soit au Québec, afin que tu nous donnes les yeux pour voir ta victoire, ta présence. Afin que tu nous donnes les yeux de la foi. Encourage nos frères, nos sœurs, encourage-nous aussi. Et je te prie pour nous ici qui sommes présents ce matin. Je suis certain que pendant que je parlais, plusieurs ont imaginé ou ont vu, ont compris des Goliaths dans leur vie. Viens montrer que tu les as vaincus et que tu marches avec nous dedans, dans la victoire. Je te remercie au nom de Jésus notre Seigneur qui est ressuscité. Amen.